Le point sur l'actualité, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Retour dans ce journal sur la décision du gouvernement d'autoriser les véhicules les plus polluants à finalement circuler dans trois agglomérations qui devaient pourtant mettre en place des zones à faible émission, les ZFE. Nous irons à Strasbourg. Et puis suite de la série sur les terres libérées de la mafia en Italie, Anne Fockenberg a assisté à l'hommage à Don Pepe, prêtre iconique assassiné par la Camorra. Le gouvernement autorise finalement les métropoles de Marseille, Rouen et Strasbourg à laisser circuler les véhicules critères 3, c'est-à-dire les plus polluants, au-delà du 1er janvier 2025, ce qui signifie peu ou prou la fin des fameuses ZFE, les zones à faible émission dans ces trois métropoles. Quant aux 41 autres villes concernées, elles pourront choisir d'autoriser la quasi-totalité des véhicules à circuler, à l'exception de ceux immatriculés avant 1997. Paris et Lyon restent concernés par l'obligation. Le ministère de la Transition écologique invoque l'amélioration de la qualité de l'air. Il annonce à l'instant que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 4,8% en France en 2023. Mais si Marseille et Rouen comptent bien renoncer à l'extension de leur ZFE, Strasbourg n'a pas l'intention de modifier son calendrier. Les véhicules critères 3 seront bien interdits de circulation à partir du 1er janvier prochain. Strasbourg, où beaucoup contestent l'amélioration de la qualité de l'air avancée par le gouvernement. Antoine Ballandra de France Bleu Alsace.
À Strasbourg, les taux de dioxyde d'azote ont chuté l'an dernier sur toutes les stations de mesure. L'Eurométropole met en avant la baisse de la circulation, moins 3% en un an. Mais Atmo Grand Est, qui mesure la qualité de l'air, avance aussi d'autres explications. Cyril Palares est son directeur.
Un qu'on ne contrôle pas, c'est la météo. On a eu effectivement un hiver relativement doux, ce qui fait que quand on est doux, on a moins de chauffage. Il y a eu aussi des périodes pluvieuses à l'automne, qui fait que ça abat les niveaux de concentration de polluants.
Les politiques publiques ne sont donc pas seules responsables de la baisse de la pollution. D'ailleurs, certains jours, les taux de particules fines, par exemple, restent très élevés, comme le 8 mars dernier, 5 fois les normes OMS mesurées sur Strasbourg. Alléger la ZFE serait donc une folie pour Thomas Bourdrel, médecin et fondateur du collectif Strasbourg Respire.
Là, Strasbourg, si vous voulez, est sorti un tout petit peu des clous de la ZFE, mais ça s'est joué à 1 ou 2 microgrammes près, ce qui est ridicule parce que les maladies liées à la pollution de l'air, elles ne vont pas se jouer là-dessus, donc on aura toujours autant de décès et de malades liés à la pollution de l'air. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument rien changer. Strasbourg est encore une ville qui reste très polluée.
Le collectif Strasbourg Respire demande donc à l'Eurométropole de maintenir la ZFE en l'état, d'autant que l'Europe s'apprête à voter une réglementation plus sévère en termes de qualité de l'air.
Les Européens qui, par ailleurs, ont prolongé d'un an la suspension des droits de douane des produits ukrainiens, mais ils vont aussi plafonner les importations des biens agricoles qui perturbent le marché européen. C'est l'accord trouvé hier à Bruxelles, qui répond directement aux agriculteurs en colère des pays de l'Est. En particulier, la Commission avait déjà proposé de plafonner les importations sans droit de douane des volailles, sucre et œufs, mais sous pression des agriculteurs, les capitales et les eurodéputés y ont ajouté l'avoine, le maïs, le gruau et le miel pour le blé et d'autres céréales. Elle pourra aussi imposer des mesures de restriction sans plus de détails pour l'instant. L'autorité de la concurrence française inflige une sanction de 250 millions d'euros à Alphabet, la maison mère de Google, pour ne pas avoir respecté certains de ses engagements rendus obligatoires par une décision de juin 2022 dans le dossier dit des droits voisins, dossier qui redéfinit les relations entre les géants du numérique et les acteurs de la presse au profit de ces derniers.
Suite du 8h45 d'Anne-Laure Chouin avec toute cette semaine une série sur les terres libérées de la mafia en Italie près de Naples.
Oui, depuis lundi, nous suivons l'association Crime Halt qui lutte contre l'implantation de la mafia en France et en Europe. Elle organise un séjour d'études avec un groupe de Français, dont plusieurs ont perdu un proche à cause de la criminalité organisée. Le but, c'est aussi de s'inspirer de la législation italienne volontariste et des initiatives citoyennes qui ont permis sur place de faire baisser drastiquement les homicides. À Casal di Principe, par exemple, cette ville autrefois gangrénée par la mafia et où se déroule ce séjour d'études, plusieurs centaines de personnes par an étaient tués par le crime organisé il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce taux est redescendu à une ou deux personnes par an au maximum. Ce matin, compte rendu d'une journée placée sous le signe de l'émotion, car les habitants de la ville ont rendu hier hommage à Don Pepe, le prêtre tué dans son église par la Camorra le 19 mars 1994. Un hommage suivi toujours par Anne Fockenberg.
Réveil matinal pour notre groupe qui devait assister à la messe en hommage à Don Pepe, Dans ce pays catholique, la mort de ce prêtre a déclenché une réaction extrêmement forte de la société civile, avec la création, un an plus tard, du réseau Libera, une ONG italienne antimafia toujours très puissante aujourd'hui et qui regroupe de nombreuses associations, notamment le Comitato d'Ondiana, dont on a parlé en début de semaine. Après la messe, plusieurs milliers de personnes défilent jusqu'au cimetière, un cortège dans lequel on retrouve les Français qui ont créé à Marseille ou en Corse des collectifs pour défendre notamment la mémoire de leurs proches tués à cause de la criminalité organisée. Hassina Sadani fait partie du collectif des victimes marseillaises d'assassinat. Elle a perdu sa nièce, Sarah, tuée par une rafale de Kalachnikov en 2020 dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Ce partage avec les Italiens lui fait énormément de bien.
On est dans un cortège où les gens se mélangent, ils ne nous connaissent pas, ils viennent discuter avec nous. On essaie de se faire comprendre comme on peut et je pense que c'est une belle chose. Il y a un monsieur qui nous a pris, moi et ma sœur, dans les bras, qui nous a embrassés sur la tête, qui nous a montré qu'il était présent. Il nous a dit « on est présent, on est avec vous, on est dans votre combat ».
Ça, c'est des choses, des marques d'affection, de soutien que vous n'avez pas eu en France ou pas beaucoup ?
Non, du tout, du tout. En France, on nous laisse. Bon, vous êtes victime, oui, voilà. Elle est décédée, oui, ben voilà. Ça s'arrête là. Quand ma nièce est décédée, on n'a eu personne, aucun soutien psychologique. Alors qu'on a une destruction, quand on perd une personne, c'est toute une famille qui est détruite.
Sarah, elle avait quel âge ?
Elle avait 19 ans. Elle allait passer son bac. Elle voulait être comptable. Elle était dans ses études. Elle me disait « Oui, mais si je réussis mon bac, on partira en vacances, on partira en voyage. » C'était une fille naïve. Elle avait la joie de vivre.
Puis le nom de toutes les victimes innocentes de la mafia en Italie, plus de 1000 personnes sont prononcées. Et à la fin, quelques-unes des victimes françaises ont été ajoutées, notamment Sarah Sadani.
Anne Fauquemberg, on vous retrouve demain pour la suite de ce voyage sur les terres libérées de la mafia. Le temps de ce lundi en France, doux, comptez de 17 à 24 degrés cet après-midi du nord au sud. Le soleil s'imposera presque partout, des nuages sur l'ouest, puis le centre-ouest ce matin, qui remonteront dans le nord cet après-midi.